Mathieu Argaud, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette auberge espagnole sur Divergence FM. Vous êtes le directeur de l'agence Bipolar, agence qui a été mandatée, missionnée par la métropole de Montpellier, quand celle-ci a reçu une bien étrange et bien inquiétante lettre anonyme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous dire au sujet de cette lettre anonyme? Quand a-t-elle été envoyée? A-t-on un début de piste pour savoir qui a envoyé cette lettre? Et surtout, que contient-elle?
Alors, on n'a pas tous les éléments. Hein. C'est la métropole qui a reçu cette lettre. Elle a été reçue cet été. Une lettre donc anonyme. On ne sait pas d'où elle provient. Mais par contre, on a pu avoir cette lettre et le contenu de ce document. Et c'est très inquiétant. Effectivement, on a un fleuve qui se manifeste. Un fleuve qui pose là son ras-le-bol et qui veut faire sécession, qui veut négocier. Et nous, on est un peu étrangement mandatés par la métropole pour résoudre cette affaire, pour résoudre un conflit d'un nouveau type entre des humains et un fleuve.
Ouais, c'est ça. Alors, on le rappelle, pour poser un cadre, hein, le Lez est un fleuve côtier qui prend sa source à Saint-Clément-de-Rivière, qui débouche à Palavas-les-Flots en Méditerranée. Il fait quelques 29 km de long, traverse la métropole de Montpellier, évidemment, on le sait. Mathieu Argaud, qu'attend la métropole de vous, au fond ?
Je pense que la mission que nous a donnée la métropole, c'est de tirer au clair un peu cette affaire. Qu'est-ce qu'on a d'un côté, hein, et qu'est-ce qu'on a comme problématique, de la pollution, ça, c'est quoi ce ras-le-bol, en fait? Et puis, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Des habitants qui boivent quasiment tous, quand même, hein, l'eau du Lez. 80% des habitants de la métropole qui boivent cette même eau, de cette source karstique exceptionnelle, unique au monde.
Karstique, vous nous définiriez ça?
Non, Pascal va le faire.
Ok, on demandera à Pascal d'ici quelques secondes.
Et voilà, l'attente, elle est de mener une concertation hors norme. Alors, ils viennent nous chercher, nous, parce que nous, on a travaillé précédemment sur le Rhône. On a fait en sorte de voir avec... Parce que nous, on travaille avec des artistes, hein, donc on fait intervenir le sensible dans ces questions-là. Et là, aujourd'hui, on va réinjecter du sensible, mais on va surtout aller chercher le sentiment des Montpelliérains sur cette question, leur rapport, leur relation à ce fleuve.
Alors, pour essayer d'éclairer au mieux ce dossier très préoccupant pour notre territoire, nous avons invité Pascal Ferren, qui est spécialiste, porte-parole des fleuves de par le monde, philosophe urbaniste qui a été sollicité en tant que membre de la commission des auditions vers un Parlement de Loire. Pascal Ferren, bonjour et merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors, est-ce que déjà vous nous feriez un petit retour sur cette histoire de Parlement de Loire, en fait, en quelques mots?
Ouais, le Parlement de Loire, c'était une réflexion qui pouvait ressembler un petit peu à l'affaire qu'on a avec le Lez. C'était une réflexion sur l'autonomie du fleuve Loire, à quel point le fleuve Loire pourrait se défendre lui-même, à quel point il pourrait avoir un Parlement propre, okay, composé par ses composantes, donc les espèces vivantes qui le composent.
Okay.
Et comment tout ceci pourrait fonctionner. Voilà. C'était une espèce de grande réflexion sur cette question-là, avec des auditions.
Ok. Et qu'avaient donné ces auditions?
Ces auditions, elles ont abouti à un livre qui s'appelle « Le fleuve qui voulait écrire », qui est un rapport d'audition, qui est une somme de cette enquête, à quoi pourrait ressembler un parlement interspécifique, un parlement entre espèces de la Loire.
Ça
pourrait prendre.
Un livre écrit par Camille de Toledo.
Oui,
si je me trompe pas.
Collectivement et coordonné par Camille de Toledo, exactement.
Ce qui n'est pas rien. Oui. Alors dites-nous un peu, est-ce que vous avez connaissance de situations critiques similaires ailleurs, que ce soit en France, en Europe ou de par le monde?
Sur les fleuves, oui, tous les fleuves du monde, hein, sont en crise. Il y a une crise de relations entre les fleuves et les humains qui sont assez fortes, avec évidemment les changements climatiques, mais pas seulement, hein, l'anthropisation des milieux. Qui ont énormément de pression sur les fleuves. Et donc il y a beaucoup, en fait, dans ces histoires de droits de la nature, de questions sur à quoi ont droit les entités naturelles, il y a beaucoup d'éléments autour des fleuves. Il y a plusieurs cas, y compris à l'international. Il y a plusieurs cas en France de rapports conflictuels entre un fleuve et ses habitants, avec des tentatives diverses et variées de représenter mieux les intérêts du fleuve. Il y a deux cas de rivières en France, de petits fleuves côtiers, qui pourraient ressembler d'ailleurs un peu au Lez, qui est la Tête dans les Pyrénées, et le Tavignanou en Corse.
Oui.
qui ont fait des déclarations, où il y a eu des déclarations des droits du fleuve. Il y a le cas de la Loire dont on vient de parler, il y a le cas de l'appel du Rhône aujourd'hui avec une assemblée populaire du Rhône, des gens qui réfléchissent aujourd'hui sur la forme que pourrait prendre tout ça. Il y a des cas en Équateur, il y a un cas très célèbre en Nouvelle-Zélande autour d'un fleuve qui s'appelle le Whanganui, qui a déclaré sa personnalité morale avec un fleuve, avec un parlement existant, voilà, qui a beaucoup inspiré d'ailleurs toutes ces histoires-là. Alors, tout ça, c'est très récent.
Et oui.
L'histoire la plus ancienne, peut-être, c'est le Whanganui, et c'est 2017, je crois.
Ok. Ouais. Alors, comment, en tant que spécialiste, vous l'analysez, cette lettre anonyme, ou en tout cas, ce que la métropole vous a laissé entreapercevoir, en fait ? Qu'est-ce qui vous frappe ? Qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention ?
Moi, ce que je trouve intéressant dans cette lettre, c'est qu'il n'y a pas de revendication particulière. C'est-à-dire que le LES ne dit pas... ce qu'on nous dit du LES, c'est pas spécifiquement son problème c'est ça, quoi. Ce qu'il raconte, c'est un problème global de considération de ce que pourraient être les intérêts d'un fleuve ou de ce qu'est un fleuve aujourd'hui. Il dit, on a perdu notre manière d'être ensemble. Il dit, que s'est-il passé pour que vous, humains, vous me traitiez comme ça, quoi? À quel moment on s'est perdu de vue, quoi?
Hey.
À quel moment vous avez oublié que vous êtes aussi le fleuve et à quel moment, voilà, que je coule en vous, en fait.
Hey.
Vous êtes un élément du cycle de l'eau, vous, humain, quoi.
Eh bien,
il raconte cette rupture. Il dit que c'est quoi cette rupture, quoi. Comment on en est arrivé là, quelque chose comme ça.
Ok, Mathieu.
Ça, c'est beau.
Bah bien sûr. Mathieu, vous réagissez comment vous quand vous entendez ça?
Ce qui se passe quand on entend ça, c'est que on a besoin de reconnecter. C'est-à-dire comment faire pour remettre en relation des habitants et un fleuve. Ce qui coule à nos pieds, hein, ce qui coule à travers nous. C'est ça qui vient nous chatouiller, on va dire, en tout cas à Bipolar, c'est comment faire pour retisser une relation qui s'est complètement distendue. C'est une histoire d'amour qui va mal. C'est une histoire d'amour quand même. Mais voilà, donc là, il va falloir mobiliser des choses sensibles, fines, heureuses, joyeuses, pour remettre en marche cette machine à relation.
Oui. Mais finalement, cette histoire d'amour qui se distend, j'ai presque envie de dire qu'on pourrait réduire la question à quel moment on a cessé de s'aimer nous-mêmes au point d'oublier que l'eau, c'est nous, l'eau fait partie de nous. C'est notre rapport au fleuve, mais c'est notre rapport à nous-mêmes.
Oui, je crois qu'il y a un épuisement. On parle beaucoup d'épuisement des ressources, mais je crois qu'on s'épuise beaucoup dans tout ça. Et là, on a un fleuve qui s'épuise. Et il faut qu'on aille puiser en nous des manières de refaire, refaire ville, parce que là, on est dans une métropole, et pas n'importe laquelle, c'est une grande métropole. Cette métropolisation-là, elle pose un vrai problème. Et elle doit venir nous questionner aussi sur, finalement, qu'est-ce qu'on est comme type d'urbain, là.
C'est ça. On va marquer une courte pause, tous les deux. On va écouter, Mathieu, un travail qui a été réalisé par Pascal Messaoudi, je crois. Dites-en nous un mot, vite fait, avant qu'on l'écoute.
Pascal, il est artiste sonore, il est journaliste radio historiquement, et il est venu nous prêter main forte pour aller interviewer des habitants sur leur relation au fleuve.
Allez, on écoute ça et on se rejoint tout de suite après.
Le Lez, c'est vrai que c'est un fleuve. Et oui, effectivement, c'est bon, il n'est pas énorme, quoi. Bon, c'est pas le Rhône non plus. Hein, mais...
Les animaux, les plantes, je veux dire un ciel, des nuages, une lumière, des écorces d'arbres, un éclairage d'un chemin ou d'un bâtiment.
Des écureuils qui sont sur les berges. Vraiment, il y a de tout qui se promène au bord du Lez.
Il était en position de chasse. Il fallait pas bouger.
Je plonge un peu dans le Lez aussi.
L'eau m'amène un moment de calme.
Moi, des fois, je me dis, je pourrais bien prendre une chaise longue et aller y aller.
Autant en kayak, en courant sur les berges du Lez, etc.
J'ai vu un martin pêcheur une fois. J'ai pu l'admirer pendant au moins 10 minutes.
Bon, on est à la campagne, on se croit à la campagne, en pleine ville. C'est Puis généralement, les gens sont détendus quand ils sont là, contrairement à quand ils sont en ville, en fait.
J'adore les tags sous le pont, ils sont très stylés.
Et qu'est-ce qu'on trouve? Un reste de pique-nique. On trouve des chiffonnettes et des lingettes accrochées aux branches.
La dernière fois, on a sorti une moto aussi du Lez.
Bah, sincèrement, en 2 semaines de tige, j'ai dû sortir peut-être 2-3 fois mon poids en déchets. On trouve de tout. On voit l'inconscience des gens en réalité quand on regarde le Lez. Le jour où le Rhône est à sec, qu'est-ce qui va se passer pour le Lez?
Les cyanobactéries, elles sont de plus en plus présentes dans le Lez.
D'avoir ces 27 km dans une zone urbanisée, en milieu méditerranéen, une zone dynamique, avec toute cette diversité, toute cette richesse, ça mérite peut-être un peu plus d'attention, plus de réflexion collective.
Le Lez est notre plus grande continuité écologique, c'est-à-dire restaurer une continuité écologique d'un cours d'eau qui a été à un moment sur 1 km fragmenté.
Moi, l'endroit du Lez qui me touche le plus, c'est celui qu'on ne voit pas. Est-ce qu'elle va se développer à l'horizontale? Est-ce qu'elle va remonter? Est-ce qu'elle va se ramifier ou rester en un seul conduit? Est-ce que ça va être une galerie très haute et puis pas très large? Ou est-ce que ça va être un magnifique tube cylindrique? Ou est-ce que ça va être une grosse fracture? Est-ce qu'il va y avoir des formes de vie qui n'ont pas encore été observées?
Et mes premiers coups de canne, je les ai mis à 15 ans dans le Lez. Donc j'ai très bien connu.
C'est un trésor. C'est un trésor. Regardez.
Et il le prend.
Ça y est. Il est pris. Il est pris, monsieur. Là, vous assistez en direct à la prise d'un chevenne de 35-38 cm.
Et puis sinon, c'est de ma fenêtre. C'est là où je l'apprécie le plus.